9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Avec Patrick Cohen sur Europe 1.
Bonjour Roger Genest.
Bonjour Patrick Cohen.
Vous êtes le directeur général de l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. C'est vous qui êtes chargé d'évaluer l'impact de produits comme les pesticides, mais pas seulement, de beaucoup d'autres produits. Comment ça marche ? Comment vous faites ? Comment vous parvenez à élaborer une appréciation sur les produits qui sont au contact des Français ?
Alors oui, l'ANSES est une agence sanitaire, hein, c'est une agence d'expertise scientifique. On évalue les produits réglementés, vous parlez des pesticides, on évalue également les médicaments vétérinaires, on évalue d'autres classes de produits, comme les produits biocides, les produits ménagers qu'on a chez nous. On a une activité extrêmement large, puisque en fait, on prend en compte et on donne des recommandations et des avis scientifiques sur tout ce qui constitue les expositions auxquelles nous sommes soumis dans notre vie quotidienne. Donc ça va toucher à notre alimentation, tout ce qui concerne les expositions aux risques chimiques, biologiques, aux micro-ondes, aux risques physiques. Nous faisons des évaluations de risque, une graduation en fait du risque par rapport à ces nombreux facteurs auxquels nous sommes exposés.
Et vous pouvez faire interdire des produits ?
Alors, sur la partie produits réglementés, on a une mission qui est bien particulière, qui est effectivement la délivrance des autorisations de mise sur le marché des produits, alors médicaments vétérinaires, encore une fois, produits pesticides, phytosanitaires ou biocides. Donc on délivre les autorisations de mise sur le marché, on peut également les retirer, les délivrer partiellement, bien entendu, et on le fait quotidiennement.
Comment vous procédez ? Est-ce que vous avez vos propres études, vos moyens de faire des recherches sur des produits, ou est-ce que vous êtes dépendant d'études faites par ailleurs ?
Alors, effectivement, dans nos missions, il y a plusieurs métiers. Il y a l'évaluation de ces produits qui repose en fait sur des données qui sont produites par les metteurs en marché, hein, donc par les industriels qui veulent commercialiser leurs produits. Et c'est les scientifiques de l'agence qui vont évaluer ces données pour pouvoir vérifier qu'il n'y a pas d'incompatibilité, qu'il n'y a pas de risque inacceptable à leur mise sur le marché. Mais nous avons également deux autres paramètres qui nous permettent de conforter cette évaluation. D'abord, des systèmes de veille, de vigilance. Par exemple, sur les produits pesticides dont vous me parliez, on a mis en place une phytopharmacovigilance. C'est-à-dire qu'on a tout un réseau territorial qui permet d'aller vérifier si on a des signaux qui apparaissent sur un impact de ces pesticides lorsqu'ils sont utilisés sur les organismes cibles, sur l'environnement. Et ces signaux remontent à l'agence pour qu'ils soient pris en compte dans nos décisions d'autorisation. Et puis, toutes ces évaluations scientifiques, elles reposent sur la science. Donc, quand on évalue un produit pesticide, hein, on prend en compte, bien entendu, les données qui sont produites par le metteur en marché, par l'industriel, et on prend en compte toute la littérature scientifique internationale pour évaluer ces risques et donc ce niveau, cette graduation du risque acceptable qui permet sa mise en marché.
Donc, à la fois des études indépendantes et des études fournies par les fabricants eux-mêmes, qui sont
tout
souvent...
Tout ce qui est disponible.
Soupçonnés, qui sont remis en cause. Est-ce qu'on peut se fier aux études fournies par les industriels eux-mêmes ?
Alors, deux aspects. D'abord, premièrement, quand on met sur le marché un produit, on est responsable, y compris d'ailleurs pénalement. Hein,
La preuve en ce moment pour Bayer.
Absolument,
oui.
C'est une responsabilité du metteur en marché. Donc, c'est une vérification de l'état et pour les produits qui peuvent présenter une dangerosité particulière, hein, comme les médicaments ou les produits pesticides, on a formellement une autorisation délivrée par l'État. Donc la mission de l'agence, c'est d'évaluer la conformité de ce produit, l'absence de risque inacceptable à sa commercialisation. Les données qui sont produites, et là, on est bien face à un paradoxe, les données qui sont produites par les industriels sont souvent soupçonnées d'être entachées, en fait, et donc orientées. Moi, je dois dire que ces données sont produites dans un cadre extrêmement précis qui a été élaboré au cours des décennies passées dans un cadre scientifique très clair, de bonnes pratiques de laboratoire. Et les données brutes qui sont collectées lors de ces études sont accessibles. Donc, on peut faire tous les calculs et modéliser et reproduire l'exploitation des données qui sont produites par les industriels.
Qui ne peuvent pas écrire n'importe quoi, donc.
Alors, qui ne peuvent pas écrire n'importe quoi, mais qui, par contre, peuvent effectivement ne pas nous donner toutes les données qui sont produites. D'où, effectivement, la recommandation qui est faite aujourd'hui, à la fois au niveau européen, dans la réforme de la loi sur l'alimentation européenne qui a été votée par le Parlement européen il y a quelques mois, et dans les recommandations du rapport de l'Office parlementaire, qui est de donner une transparence totale sur la donnée des industriels, non seulement sur celles qui sont produites et analysées par les agences d'expertise, mais également de tracer les essais qui auraient pu être conduits et qui ne sont pas produites à l'appui du dossier d'autorisation. Donc une traçabilité totale pendant de toutes les études qui ont conduit au développement d'un produit nouveau.
Voilà pour la méthode. Après une pause avec vous, Roger Genet, directeur général de l'ANSES, on passe aux travaux pratiques sur le sujet qui fâche, le glyphosate, cancérogène probable pour le CIRC, le Centre de recherche sur le cancer, mais pas pour l'ANSES ni pour les autres agences réglementaires. Vous allez nous expliquer.
9h-10h, c'est arrivé cette semaine. Avec Patrick Cohen sur Europe 1. Avec Patrick Cohen sur Europe 1.
Avec notre premier invité, le directeur général de l'ANSES, l'agence de sécurité sanitaire chargée d'évaluer les risques. Vous l'avez rappelé, Roger Genet, alors que le CIRC, le Centre sur le cancer qui a classé le glyphosate comme cancérogène probable, évalue le danger intrinsèque d'un produit. Est-ce que c'est cela, danger, risque, qui explique vos divergences sur le glyphosate ?
Alors, en partie, c'est pas totalement ce qui explique la différence entre les agences, mais effectivement, il faut bien comprendre que quand on fait une évaluation d'un produit, on a d'abord une évaluation de sa dangerosité intrinsèque, donc toxique sur la reproduction, cancérigène, toxique pour l'environnement. Donc, on va graduer le niveau de risque de toxicité en fait de cette molécule. Je rappelle que toute molécule biologiquement active est toxique forcément par rapport aux organismes cibles contre lesquels ils sont destinés à agir. Donc par nature, ce sont des produits dangereux. Donc on a une partie qui est l'évaluation du danger, mais ensuite on est exposé à ce danger de façon différente en fonction des usages. Et donc ensuite, on va mettre en évidence la relation entre la dose et l'effet, et puis on va travailler sur les expositions, la façon dont nous-mêmes, dans l'usage qui est fait du produit, nous sommes exposés à ce danger que constitue la molécule chimique. Et donc, on va faire cette évaluation de risque et au final, on va graduer le niveau d'acceptabilité ou le niveau acceptable ou inacceptable du risque que prend l'utilisateur, mais pas seulement l'utilisateur, le riverain, l'usager, le consommateur et l'environnement lui-même face à l'utilisation de ces molécules.
C'est ce qui vous a fait écrire que le glyphosate expose ses utilisateurs, en premier lieu, à un risque relativement limité ou que le niveau de preuve de cancérogénéité était relativement limité. Là aussi, cet avis-là, il ne pèse pas aujourd'hui dans le débat public, Roger Genet.
Bon, d'abord, ce que je voudrais dire, et enfin, faut vraiment le rappeler, c'est qu'aujourd'hui, en France, il n'y a pas de risque sanitaire avec les produits à base de glyphosate qui sont utilisés aujourd'hui dans des conditions extrêmement encadrées. Aujourd'hui, on a sur le marché en France une cinquantaine de produits à base de glyphosate qui sont tous réservés à des usages professionnels qui, eux, savent utiliser ces produits avec une protection adaptée. Donc, il n'y a pas aujourd'hui, dans ces usages, de risque sanitaire.
Pas de risque sanitaire dans ce cadre-là professionnel avec précaution pour ceux qui ont l'habitude de s'en servir. C'est ça que vous dites ?
Exactement, c'est-à-dire conformément aux précautions d'usage qui sont précisées dans chaque autorisation de mise sur le marché. Voilà. Pour autant, on a bien entendu en fait un niveau d'incertitude sur le niveau de danger. On a besoin en fait d'avoir une meilleure évaluation du risque intrinsèque en fait du glyphosate. C'est la raison pour laquelle nous-mêmes, nous avons saisi notre comité d'experts il y a plusieurs mois pour analyser l'ensemble des données qui sont actuellement disponibles en termes de toxicité du glyphosate. Et nous allons, d'ici quelques semaines, publier un rapport sur les données que nous demandons de produire pour confirmer, essayer de diminuer au maximum l'incertitude qui reste sur la toxicité du glyphosate. Donc ces études, nous allons lancer un appel à candidature pour sélectionner des équipes indépendantes pour mener ces études qui permettront finalement de distinguer les effets génotoxiques et les effets épigénétiques qui peuvent être à l'origine de la cancérogénicité. Et ces études, elles devront être disponibles pour réévaluer le glyphosate au niveau européen, puisque vous savez que le glyphosate a été autorisé pour 5 ans. Et donc, l'ANSES sera impliqué dans le consortium qui va réévaluer le glyphosate pour arriver, fin 2022, soit à son interdiction totale, soit à sa réhomologation.
Vous venez de parler des utilisateurs du glyphosate, pour l'essentiel des agriculteurs évidemment. Quid des consommateurs, puisque vous avez vu qu'il y a cette campagne de détection de traces de résidus de glyphosate dans les urines ?
Alors, bon, c'est clair hein, qu'on peut être surpris, néanmoins, n'importe qui, chacun d'entre nous, vous, moi, d'avoir du glyphosate dans les urines. On n'a pas que du glyphosate, d'ailleurs. Il y a un certain nombre de substances chimiques auxquelles on est exposé. Alors, la première chose que ça veut dire, c'est que, clairement, on y est exposé par l'alimentation et l'eau que l'on boit. Et je comprends que l'on puisse trouver ça anormal d'être en fait imprégné avec une molécule chimique qu'on n'a pas souhaité consommer. Donc ça vient de l'alimentation. Pour nous, agents sanitaires, la problématique, encore une fois, c'est d'arriver à diminuer l'exposition à ces contaminants chimiques qui sont présents dans l'alimentation et dans l'eau au maximum. En tant qu'agent sanitaire, ce que je peux dire, c'est que c'est au moins 1000 fois en dessous des seuils sanitaires. Ça ne légitime pas pour autant le fait qu'on retrouve du glyphosate dans l'urine.
Donc pas de risque.
Pas de risque sanitaire.
Pas de risque sanitaire. Le paradoxe, c'est qu'on vient de parler du glyphosate, qui est un produit connu, utilisé depuis 40 ans, qui a fait l'objet de très nombreuses études, qui est très connu, très bien connu. Est-ce qu'il y a un produit ou une famille de produits qui vous inquiète particulièrement parce qu'on manque de données, parce que c'est encore mal étudié?
Alors, il y en a plusieurs. On a des produits qui, par leur dangerosité intrinsèque, sont plus préoccupants que le glyphosate. Le problème du glyphosate, c'est que c'est lui qui est utilisé en plus grande quantité. Hein. C'est 9000 tonnes par an en France sur 70000 tonnes de produits pesticides utilisés. Et puis, c'est un emblème hein, d'un certain type en fait, d'agriculture. Mais au-delà, on utilise des produits qui peuvent être plus préoccupants en termes de danger. Chaque fois qu'on a des données nouvelles, on réévalue immédiatement nos autorisations de mise sur le marché. D'ailleurs, je vais être amené à retirer d'ici quelques semaines en fait, un produit fongicide dont on a démontré il y a quelques semaines le caractère perturbateur endocrinien avéré et je n'attendrai pas pour faire ce retrait. Dès qu'on a des éléments nouveaux, bien entendu, on réévalue nos AMM et on fait des retraits. Et bien entendu, on utilise aujourd'hui des produits qui peuvent intrinsèquement être dangereux, mais c'est des conditions d'emploi qui, et puis le bénéfice-risque hein, qui justifie leur usage. Par exemple, quand on a une épidémie de dengue en Guyane et que évidemment il y a un problème de santé publique majeur, c'est vrai aussi à La Réunion, on peut être autorisé ou on peut nous donner une autorisation dérogatoire pour utiliser des produits dangereux, mais sur un temps limité et dans des conditions d'usage qui permettent au mieux de préserver en fait, la sécurité.
Juste encore un mot sur un produit qui est très utilisé dans le bio et de plus en plus utilisé, le cuivre, les dérivés de cuivre pour traiter les cultures notamment. Est-ce que, ça, à vos yeux, c'est un problème
Alors, le cuivre est un produit qui n'est pas dédué de risque, hein, notamment pour l'environnement, mais aussi pour les utilisateurs. Hein, notre évaluation, l'évaluation que nous avons conduite l'année dernière, puisque le cuivre vient d'être réhomologué au niveau européen, montre clairement qu'il y a des risques spécifiques. Encore une fois, il est autorisé dans des conditions très encadrées. Aujourd'hui, ça va être 4 kg par hectare, avec une moyenne de 4 kg hectare sur 7 ans glissants pour permettre aux agriculteurs d'avoir des traitements aussi en fonction des conditions de pluviométrie, en fonction des territoires qui permettent d'être efficaces hein, par rapport aux risques sur les vignes. Dans ces conditions-là, encadrées, le risque de son utilisation n'est pas inacceptable, mais c'est clairement un produit qui devra être substitué à court et moyen terme. Et il faut qu'on trouve des alternatives à ces produits.
Et qui posent des problèmes pour la biodiversité aussi.
Bien sûr.
Merci beaucoup Roger Genet, directeur général de l'ANSES, d'être venu au micro d'Europe 1.
Merci.
9h-10h, c'est arrivé cette semaine. Avec Patrick Cohen sur Europe 1. Europe 1.
De 9h à 10h le samedi, vous écoutez Patrick Cohen avec C'est arrivé cette semaine sur Europe 1.
Bonjour André Caspi.
Bonjour.
Historien, spécialiste des États-Unis, pays qui vous surprend toujours malgré 50 ans d'études et d'enseignement. C'est ce que vous écrivez en ouverture de votre dernier livre consacré au débat sur les armes à feu, La nation armée, aux éditions de l'Observatoire. Pourquoi les armes sont au cœur de la culture américaine? Pourquoi presque rien n'est fait pour limiter leur usage, même après chaque fusillade mortelle, un mort encore il y a 10 jours dans une école du Colorado, pas loin de Columbine, lieu d'une terrible tuerie il y a 20 ans, et pourquoi l'opinion est à ce point fracturée sur ce sujet. Mais j'aimerais d'abord vous entendre sur un autre mystère américain, le droit à l'avortement. Hier soir encore, un nouvel État conservateur, le Missouri, a voté une loi très restrictive qui interdit les IVG après 8 semaines de grossesse, même en cas de viol ou d'inceste. L'Alabama, la Géorgie, l'Ohio, le Kentucky, le Mississippi ont fait plus dur encore ces derniers mois en espérant un changement de doctrine de la Cour suprême. Question simple, est-ce que ça peut arriver? Est-ce qu'on peut imaginer, 46 ans après, la Cour suprême américaine revenir sur le droit à l'avortement?
À votre question, je ferai deux réponses. La première réponse, tout d'abord, c'est que j'étais à Washington en juin 2018, lorsque l'un des juges à la Cour suprême qui faisait l'équilibre entre les conservateurs et les libéraux a démissionné. Et tout le débat portait sur la nomination d'un nouveau juge qui serait favorable à la limitation et à l'interdiction même de l'avortement. Donc ça veut dire que l'avortement est véritablement l'un des problèmes majeurs sur lesquels les Américains se divisent. Il y a trois questions qui sont très importantes pour la société américaine. L'immigration, l'avortement et les armes à feu. C'est-à-dire qu'au fond, nous avons tendance un peu à voir les choses sur le plan politique, c'est vrai, parce que chacun de ces problèmes a des répercussions politiques. Mais il ne faut pas oublier que la société américaine est profondément divisée et que ces trois points que je viens de citer, contribue justement à accroître le fossé entre les deux parties de la société américaine. Alors, pour répondre à votre question, c'est très simple. En 1896, la Cour suprême a validé la ségrégation raciale. Elle estimait qu'il était tout à fait conforme à la Constitution que les Noirs soient séparés des Blancs. En 1954, la même Cour suprême, mais elle n'était pas composée des mêmes juges, ça va de soi. La même Cour suprême a décidé que la ségrégation scolaire n'était pas conforme à la Constitution des États-Unis et par conséquent, elle a ouvert la voie à la déségrégation. Donc ce que la Cour suprême a fait, elle peut le défaire. Elle a fait en 1973 un arrêt qui n'est pas une loi, qui est un arrêt de la Cour suprême qui autorise l'avortement dans certaines conditions.
Roe versus Wade.
Mais elle peut très bien, en 2019 ou en 2020, aller en sens contraire et considérer que l'avortement n'est pas conforme à la Constitution des États-Unis.
André Caspi, on retrouve la même Cour suprême dans votre livre « La nation armée en gardienne sourcilleuse du deuxième amendement qui donne le droit à chaque Américain de détenir et de porter des armes ». On va y revenir, mais ce que vous montrez d'abord en partant du constat que les armes à feu tuent chaque année, il faut le rappeler, 30 à 35 000 Américains, 30 à 35 000 morts, même si les deux tiers sont des suicides. C'est à la fois que les armes sont au cœur de la culture américaine, c'est le sous-titre de votre livre, et que c'est un débat qui fracture l'opinion jusqu'à la haine entre les pros et les anti-guns. C'est plus grave et plus violent qu'entre les démocrates et les républicains, vous le disiez tout à l'heure.
Autrement plus violent, parce que vous avez chez des démocrates des partisans des armes à feu et vous avez chez des républicains des adversaires, ils sont un peu plus rares, des armes à feu. Ça veut donc dire que ça n'est pas le débat politique, c'est un débat de société. C'est ça qui est important. Ça veut donc dire que pour les Américains, la détention des armes à feu, ça fait partie du droit fondamental, tel qu'il est défini par la Constitution et notamment par les amendements à la Constitution des États-Unis, des amendements qui datent de 1791.
C'est ça qui est fascinant. Vous le racontez en détail, c'est cette histoire qui remonte à plus de deux siècles et qui façonne en profondeur la société américaine qui paraît pourtant si différente.
Toutefois, je voudrais souligner que parmi ces 30 ou 35 000 morts par arme à feu, vous avez raison de dire, les deux tiers sont des suicides. Ouais. Et une bonne partie de ceux qui restent, c'est le résultat de la guerre des gangs. Donc ça veut dire que les armes à feu tuent infiniment moins qu'on pourrait le croire.
Mais ces suicides, on peut penser aussi qu'ils sont facilités par la diffusion des armes à feu.
Bien sûr. Mais ça veut dire qu'au fond, ce ne sont pas tous les Américains qui détiennent des armes à feu. On estime que c'est un Américain sur trois. Mais quand un Américain détient des armes à feu, c'est bien au pluriel. C'est-à-dire, c'est pas simplement un pistolet, c'est une collection. C'est-à-dire qu'au fond, on s'aperçoit que parmi ceux qui ont assassiné d'autres, et notamment dans les établissements scolaires, et il suffisait que ces assassins prennent les armes chez eux, dans le placard, ou bien parce que le placard est ouvert, ou bien parce qu'il n'y a pas de placard. Et puis avec ça, ils peuvent se servir et tirer dans le tas, si on peut dire. C'est-à-dire qu'au fond, ce qui est dangereux, c'est surtout que les armes les plus perfectionnées sont aux mains de personnes qui n'ont pas tous leurs sens et qui ont perdu en somme la moindre réflexion sur la qualité des hommes et des femmes.
André Caspi, c'est un livre passionnant qui montre que la société américaine, l'opinion, est travaillée en profondeur par ce débat et que ça peut évoluer là aussi. On parlait de l'avortement dans un instant. Ça peut, les anti-guns peuvent gagner et peuvent faire bouger les choses. Vous pensez que ça peut arriver un jour ?
Oh, ça peut arriver, tout peut arriver aux États-Unis, vous savez. Mais actuellement, compte tenu de la composition de la Cour suprême, je doute que cela arrive immédiatement. Et d'autre part, il faut quand même reconnaître que pour beaucoup de législateurs, que ce soit à la Chambre des représentants ou au Sénat, c'est une responsabilité qu'ils n'ont pas envie de prendre que de légiférer sur les armes à feu, parce que les pro-guns, c'est-à-dire ceux qui soutiennent la liberté de s'armer, les pro-guns sont suffisamment puissants, sont suffisamment influents pour empêcher justement qu'il y ait un changement profond dans la politique des armes à feu aux États-Unis.
André Caspi, La Nation armée, les armes au cœur de la culture américaine, ça vient de paraître aux éditions de l'Observatoire. Merci beaucoup André Caspi d'être venu nous en parler.
Europe 1, c'est arrivé cette semaine. Patrick Cohen. C'est arrivé cette semaine. Avec Patrick Cohen sur Europe 1.
Bonjour Jean-Claude Carrière.
Bonjour.
Vous revenez de New York, où un hommage exceptionnel vous est rendu au musée d'art moderne, le MoMA. Une rétrospective de 37 films auxquels vous avez collaboré pour Pierre Etex, Buñuel, Godard, Jacques Deray, Jean-Paul Rapneau, Louis Malle, Vajda, Milos Forman. Évidemment, c'est une partie des 150 scénarios dont vous êtes l'auteur. Mais quel honneur !
Oui, c'est-à-dire, ça ne s'est jamais fait. J'étais à New York en novembre pour le festival. J'avais deux films sélectionnés, le film de Louis Garrel et le film de Steinbell, At Eternity's Gate sur Van Gogh.
L'homme fidèle.
Et l'homme fidèle de Louis. Et puis, le directeur du MoMA m'appelle pour m'inviter à déjeuner et me dit, voilà, on aimerait organiser une rétrospective de vos films. J'ai dit, mes films, ça veut dire quoi? Je ne suis pas metteur en scène. Non, mais il me dit, vous comprenez, il n'y a aucun metteur en scène au monde qui a fait 40 films, ou 50. Alors, on a pensé faire une rétrospective, ce serait la première fois, d'un scénariste. Alors, j'étais très heureux, non seulement j'étais heureux pour moi, bon, c'est normal, mais surtout pour mes confrères scénaristes, qui en général sont complètement passés sous silence.
Et
c'est le producteur qui est le maître absolu. D'ailleurs, l'auteur du film, celui aux Oscars par exemple, celui qui reçoit l'Oscar du meilleur film, c'est le producteur.
Bien sûr.
C'est pas le metteur en scène.
Et vous avez reçu, vous, un Oscar d'honneur en 2014.
Oui.
Est-ce que vous savez ce que les Américains aiment en Jean-Claude Carrière ?
Je sais pas ce qu'ils trouvent. Avant ça, la Writers Guild, enfin les scénaristes américains, m'avaient donné un prix que je suis le seul non-américain à avoir jamais eu. Alors, je ne sais pas, je dois avoir... J'ai attiqué, comme on dit.
Alors, on va écouter un florilège de vos histoires ou de vos dialogues. Voici la bande-son cinématographique de Jean-Claude Carrière.
Ah, ça, je ne la connais pas.
Vous avez besoin d'un jardinier, n'est-ce pas ?
Oui, en effet. Oui.
Alors, voilà, je sollicite ce poste.
Enfin, monseigneur, vous...
Ne vous étonnez pas, chère madame. Vous savez, l'église a beaucoup changé.
J'ai lu que Miranda détient le record du monde du nombre d'homicides par tête d'habitants, est-ce vrai ?
Non, colonel, vous vous trompez.
Pas du tout, il paraît qu'on tue pour un oui, pour un non, gratuitement.
Qu'est-ce que c'est ? Il y a un champ de tir par ici ?
Non, c'est moi. Je m'imaginais qu'on fusillait un pape.
Car je suis immortel ! Je suis immortel parce que je suis le peuple ! Le peuple est avec moi ! Et vous ? Et vous, les assassins, vous serez jugés par le peuple !
Dis donc, il y a un autre coup qu'on pourrait faire tous les deux, là, du même genre que les poissons, mais en plus grand.
Explique.
Polly.
Quoi, Polly ?
La boucherie.
Ça m'intéresse pas, la boucherie.
Pourquoi ?
J'aime les bouchers.
Qu'est-ce que vous voulez, vous ?
Je voulais...
Reprendre à votre place. Et disparaître ensuite pendant une semaine, sans pourquoi ni comment.
Il faut m'excuser.
Ici, je ne veux pas de travail d'amateur. Il y a la rue pour ça.
Je vous en prie, madame.
Vous avez de la chance d'avoir affaire à moi.
Quel âge avez-vous ?
18 ans. Vous avez vu mon père et Marianne?
Oui.
Et ça ne vous fait rien?
Oh, ça n'a pas grande importance.
Oh, vous trouvez?
Non, il y a des soirs où tout est permis, enfin presque.
Fameuse ta tarte. Regarde la différence. La tienne est dure, cassante, desséchée, fade, indigeste. En un mot, immangeable. Tandis que celle d'Hélène est légère, dorée, fondante, savoureuse. Et sais-tu pourquoi? Tout simplement parce qu'elle emploie de l'huile pour sa pâtisserie.
Le final,
la nature est là, il suffit de prendre ce qu'elle veut bien nous donner. Pourquoi vouloir toujours posséder? Pour mourir riche, ça nous avancera à quoi?
Ça va très vite faire tache d'huile, vous savez. Toute la région va s'y mettre, les gens n'attendent que ça.
On fera de la poésie, de la musique. On recueillera tous les déchets végétaux pour faire du compost.
Ah, le compost, c'est essentiel. Les coquilles d'œufs, les épluchures...
On a trop jeté, beaucoup trop, tout ça pour faire du plastique, du béton, des matières mortes.
Il ne faut plus rien de chimique. Papy, on se lave plus les dents?
Ça, tu te mets à ta mère.
Extrait de Milou en mai, merveilleux film de Louis Malle avec Michel Piccoli, Dominique Blanc, Michel Duchossois. Il y avait auparavant Le charme discret de la bourgeoisie de Buñuel avec Jean-Pierre Cassel, Stéphane Audran, Claude Pieplu, Fernando Rey, Julien Berthaud. La voie lactée de Buñuel,
ouais,
où vous jouez un évêque.
Oui.
Jean-Claude
Buñuel
Carrière
disait que j'avais un grand talent d'acteur, mais uniquement pour des rôles d'ecclésiastique.
Oui, il vous a fait jouer un curé aussi. Hein.
Oui, c'est ça. Ne jouez pas autre chose, vous êtes fait pour ça.
Belle de jour, toujours Buñuel avec Catherine Deneuve et Geneviève Page. Borsalino de Jacques Deray avec Delon et Belmondo. La piscine, Alain Delon et Jane Birkin dans l'extrait qu'on a entendu. Gérard Depardieu, immense dans le
Danton
de Vajda. Et puis ce dîner de cauchemar où vos hôtes vous parlent comme dans des publicités. C'est une scène de Tant qu'on a la santé de Pierre et Tex. Tout cela donc projeté en ce moment au MoMA de New York et signé Jean-Claude Carrière, notre invité. Est-ce qu'en écoutant tout cela ou en regardant ces films, on apprend à vous connaître ou à vous reconnaître, ou bien est-ce que, comme Shakespeare, vous dissimulez complètement derrière votre œuvre ou vos œuvres, Jean-Claude Carrière?
Non, je pense qu'on reconnaît toujours un auteur. Il ne peut jamais se cacher complètement, ou alors il n'est pas un auteur. On peut le reconnaître, on peut le voir de différentes façons selon qui on est. Vous parliez de Shakespeare, c'est vrai qu'on peut le voir de mille façons. Mais il est certain que c'était quelqu'un qui connaissait les tavernes de Londres aussi bien que la cour, aussi bien que les milieux aristocrates de son temps. C'était un homme complet qui allait un peu partout. Et je crois que, moi, ça fait maintenant 60 ans que j'écris des scénarios, donc je fais toujours très attention à la façon dont parlent les gens, la manière qu'ils ont de s'exprimer, de vous regarder, de ne pas vous regarder, etc. Et j'essaie ensuite, quand j'écris une scène, de retranscrire, de remettre certains éléments que j'ai pu percevoir. Cela dit, la plupart du temps, on l'invente.
Jean-Claude Carrière, invité spécial de C'est arrivé cette semaine. On vous retrouve dans un instant.
9h, 10h, C'est arrivé cette semaine.
Avec Patrick Cohen sur Europe 1.
C'est arrivé cette semaine.
Avec Patrick Cohen sur Europe 1.
Avec Jean-Claude Carrière, conteur et raconteur d'histoire. Auteur de cinéma, je sais que vous n'aimez pas beaucoup qu'on dise scénariste, vous préférez auteur?
Ah non, ça m'est égal, non. Bon. Non, scénariste, non. C'est très bien, seulement il faut savoir qu'un scénariste est un cinéaste.
Ouais.
C'est-à-dire que quand on écrit un scénario, il faut savoir comment ce qu'on écrit va devenir un film. Si je suis en face de Louis Malle ou de Buñuel et qu'il me pose une question technique, si je suis incapable d'y répondre, il n'a pas besoin de moi.
Exemple sur Borsalino, je crois que vous avez transformer le film en urgence pour l'adapter à un budget en baisse?
Comment? Il y a eu trois semaines avant le début du tournage, il s'est passé une chose qui, je ne sais pas pourquoi, ne se passe plus. Le dollar a été dévalué. C'était un film financé par une compagnie américaine. Le dollar est dévalué de 17%. Ce qui fait que du jour au lendemain, on a 17% en moins sur le budget déjà établi, en tournée. Alain Delon et son directeur de production, parce que c'était Alain qui était le producteur, sont venus chez moi un soir. Il m'a dit, voilà, il faut que dans la nuit, tu coupes 300 millions anciens, sinon on ne fait pas le film. Et on s'est mis au boulot avec Pierre Caro, son directeur de production. sur chaque scène, comme ça. Alors je me dis, écoute, j'ai eu beaucoup de mal à équilibrer vos deux rôles, je vais quand même rogner un peu sur le tien, excuse-moi. Moi, il m'a dit, vas-y. Et en effet, au matin, on y est arrivé. Non, ça a pris toute la nuit.
Qui vous a initié au cinéma ?
Alors, c'est Pierre Etex et Jacques Tati. Parce que j'étais romancier, j'étais jeune, j'étais encore étudiant quand j'avais publié des livres. Et Robert Laffont, mon éditeur, a organisé, avait un contrat avec Jacques Tati pour faire de la novélisation, tirer deux romans, Des vacances de Monsieur Hulot et de mon oncle, qui étaient en cours de tournage. J'ai passé un petit concours, il m'a demandé si ça m'intéressait, et j'ai gagné.
Ouais.
Donc j'ai été reçu par Tati, directement, avec Etex à ses côtés, qui m'a dit, Tati, c'est pas lui qui a lu, c'est moi.
Ouais. Pierre Etex, votre compagnon de...
Oui, que je regrette infiniment.
Pendant
40 ans.
8 ans, vous avez travaillé avec
ensemble,
lui.
Ensemble, et ensuite on a fait des livres, on a fait plein de choses, on habitait pas loin l'un de l'autre, on se voyait très souvent.
Il parle de vous, Jean-Claude Carrière, c'était en juin 2010 sur Europe 1 au micro de Frédéric Taddeï.
C'est la seule personne que j'ai rencontrée qui a un vrai sens du slapstick inné. Et c'est quand même un personnage tout à fait exceptionnel, Jean-Claude, parce qu'il a une culture qui est assez colossale. Et puis, lorsque je l'ai rencontré, il venait de faire l'adaptation littéraire des Vacances de Monsieur Hulot. Alors, comment arriver à décrire des gags ? Alors ça... C'était diabolique. Et il me dit, quand il a vu les dessins que j'avais faits, « Oh, ben, quand je ne pourrai pas décrire un gag, ben, on mettra un dessin. » Voilà. Et on s'est entendu tout de suite. Et finalement, très très vite, on a travaillé ensemble. Il avait entre-temps fait un commentaire sur un film de... C'était un documentaire sur les insectes ou les crapauds, je ne sais plus. Et je sais que Buñuel a vu ça, il a entendu ce texte, et il a dit « C'est formidable, il a voulu le rencontrer. »
Pierre Etex. Sur Europe 1.
Le film dont il parle, c'était Bestiaire d'amour de Gérard Calderon, d'après un livre de Jean Rostand, que j'ai bien connu, avec qui j'ai travaillé, et qui était un personnage merveilleux.
Jean-Claude Carrière, vous êtes aussi un homme de théâtre, mais oui. le théâtre c'est éphémère.
J'ai passé 34 ans à travailler avec Peter Brook, comme je vous dis quand même, c'est quand même le grand œuvre de ma vie.
Oui,
on parle beaucoup de cinéma, mais j'ai passé beaucoup plus de temps à travailler au théâtre et à publier des livres qu'à faire du cinéma.
Alors, il y a quelques captations, évidemment, et notamment des travaux que vous avez pu réaliser avec Peter Brook, mais tout le reste a disparu, c'est éphémère. Alors que le cinéma reste, on en a des traces, et puis on projette encore des films
pour
très anciens.
Vous savez que le cinéma traverse une crise en ce moment, vous le savez quand même. On se demande même s'il va survivre.
Vous le pensez ?
Moi, je me demande quelquefois si le XXe siècle n'a pas été le siècle et du pétrole et du cinéma. Bon, moi, j'ai ma plus jeune fille à 16 ans. Elle va très rarement au cinéma, elle ne regarde jamais la télé. C'est fini maintenant, ils ont leurs engins, ils ont leurs petits trucs. Bientôt, on regardera un film en cinémascope sur sa montre bracelet. Hein, c'est un peu ça.
Alors, nous sommes des résistants en France, parce qu'il y a quand même eu 200 millions d'entrées l'an dernier.
Oui, même un peu plus, même. Oui. Nous sommes des résistants et... avec les États-Unis, qui sont les deux pays qui ont inventé le cinéma. Ouais.
Alors, à l'heure de cette rétrospective de votre œuvre pour le cinéma, Jean-Claude Carrière, je vais vous demander de choisir un film, ou deux films, ou trois, qui, à votre avis, devraient passer l'épreuve du temps. Les derniers dont on se souviendra quand nous serons tous retournés en poussière.
Oh là là, vous me demandez l'impossible, mais je pense quand même qu'il restera un film de Buñuel, ça j'espère, parce qu'il est déjà mort depuis quelque temps et ses films sont toujours très très vus partout dans le monde. Le Charme discret de la bourgeoisie, Belle de jour. En fait, comme je ne serai plus là et comme je n'en aurai aucune conscience, je ne dis pas que je m'en fous, pas du tout. Mais on écrit quand même avant tout pour les gens de son temps, qui vivent avec nous. C'était le cas de Shakespeare, c'était le cas de Molière et de tous les autres. Ils écrivent pour les gens de leur temps. Si ce qu'ils écrivent a le bonheur de passer des siècles, des générations et d'intéresser encore, comme le fait Molière, les gens d'aujourd'hui, tant mieux. Mais qui peut affirmer ça ? Personne, bien sûr.
Jean-Claude Carrière, célébré aux États-Unis, on est très heureux d'avoir accompagné ces célébrations, si je puis dire, ici à l'antenne d'Europe 1. Mais en France, mais que fait la France, les institutions du cinéma, vous n'avez pas un peu d'amertume à l'égard
non,
de...
Patrick, ce n'est pas du tout pour ça qu'on travaille. On ne le refuse pas quand ça arrive, mais on travaille avant tout pour les gens qui vont voir nos films, qui vont voir nos pièces de théâtre, qui vont lire nos livres. On ne pense pas du tout, moi je ne pense jamais aux récompenses, aux prix, pas même à l'argent que ça va rapporter.
Oui, mais vous êtes prophète aux États-Unis et pas dans votre pays.
C'est connu.
C'est
vous venez
un dicton,
presque
oui.
de citer un proverbe.
Absolument. Merci beaucoup Jean-Claude Carrière.
Merci à vous.
9h-10h, c'est arrivé cette semaine. Avec Patrick Cohen sur Europe 1.